France en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Ah, quelle inquiétude dès nos jeunes âges. Comment fait-on des bébés? Et chez les animaux, de la foudre la poule, qui a commencé l'aventure évolutive de la reproduction? Si on observe le moineau couvé, blotti sur ses œufs, que fait donc le triton en posant les siens sur la face des plantes aquatiques, tandis que même la vipère péliade semble, elle, accoucher? Il n'y a nul besoin de se proclamer féministe pour constater combien les rôles géniteurs s'avèrent partagés entre mâles et femelles. Déjà, le nid qui abrite la couvée est chaudement gardé par la canne ou par merlois, alors que monsieur convole encore auprès des dames. Il y a bien sûr, notre petit moineau qui accompagne sa dame et semble travailler avec elle. Mais chez les mammifères, la femelle n'a nul loisir d'échapper à son destin reproducteur, qui l'amène à une gestation longue et encombrante, et qui sera suivie par une incommode délivrance. À l'issue de laquelle, cependant, le bébé peut hurler sa venue inopinée sur notre incroyable planète. Mais d'où vient que les mâles et femelles n'ont pas le même rôle? L'œuf lui-même a connu de longues péripéties avant de se pourvoir de nutriments. Car il ne suffit guère que les spermatozoïdes et les ovules se rencontrent pour assurer la pérennité des espèces. Tout un ensemble de procédures organiques gouverne, depuis la nuit des temps, l'arrivée d'une inestimable progéniture pour des années à venir. C'est au cours d'une histoire mouvementée que s'est mise en place une manigance d'actes qui attirera les gamètes, retiendra l'insémination et se poursuivra dans une gestation interne. Il est cependant bien des animaux qui ne semblent pas s'encombrer de trop d'artifices. Ainsi, si les poissons livrent au fil du courant de la rivière l'espoir d'une fécondation, d'autres expédient tout simplement leurs gamètes dans les vagues de l'océan. Est-ce pour renforcer davantage leur reproduction que certains ont pris, au fil des temps, d'autres chemins? Est-ce pour favoriser une postérité fructueuse que tant de subterfuges furent employés pour approcher au plus près des replis profonds du sexe reproducteur et inventer 1000 organes d'insémination? Toute cette histoire paraît un peu trop linéaire et ressemble parfois à un dessin finalisé dans le seul but de faire croître et prospérer une abondante progéniture. Seulement, l'histoire évolutive ne nous raconte pas ça. La simple salamandre met au monde des larves déjà aptes à nager dans le courant des ruisseaux. Il a fallu prendre bien des chemins de traverse pour que l'œuf s'acoquine avec l'utérus dans une aventure extraordinaire qui fait apparaître un nouvel être vivant. Loin des rentabilités marchandes, il s'agit d'une histoire de petits bricolages et d'essais parfois infructueux, avec des détours et des impasses. Mais cette histoire-là est l'histoire de la vie. Alors, De l'œuf ou de la poule, qui a commencé entre les eaux marines et les terres boisées, entre les neiges glaciales et les déserts arides? Qui a commencé à produire l'événement final? Après la longue constitution d'un œuf amniotique, comment les mammifères se sont-ils débarrassés de sa complexité pour le réduire à nouveau? Et que vient faire la froidure du climat là-dedans? En racontant cette longue histoire de la reproduction, nous allons nous attarder sur quelques stratégies innovantes, curieuses ou même saugrenues, que les animaux ont développées pour mettre au monde leurs bébés. Car nous sommes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, et l'insolite ne nous fait pas peur, pour peu que cela change notre vision du monde.
C'était un petit extrait swing de Biréli Lagrège. Nous voilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie dans une émission faite pour les aventuriers de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle. Science en liberté. Les animaux sauvages ont évolué à travers une extraordinaire variété de modes de reproduction. Là où certains couvent, d'autres laissent leurs œufs dans le courant. Et puis, il y a ces mammifères qui accouchent de bébés carrément vivants. Nous allons aujourd'hui discuter de cette diversité évolutive de la reproduction, car il semble bien que les animaux aient tout essayé. Bonjour Thierry.
Bonjour Siona.
En fait, ce qui étonne d'abord, c'est que les animaux déploient une énergie considérable pour protéger leur progéniture. Il semble qu'au fur et à mesure de l'évolution biologique, les différentes espèces aient augmenté de plus en plus leurs soins aux jeunes.
Oui, Siona, on pourrait assister à une complexification des modes de reproduction sexuelle au cours de l'évolution, comme si chacun des groupes zoologiques avait découvert de nouvelles manières de plus en plus élaborées. À côté d'espèces qui semblent abandonner leurs œufs dans la nature, on en voit d'autres qui les soignent et les protègent. C'est ce que l'on nomme l'investissement parental.
Et à son tour, le mode de reproduction paraît influencer la recherche des partenaires.
En effet, Trivers en a même tiré un modèle qui suggère que les espèces qui vont déployer un très fort investissement parental devraient se montrer beaucoup plus sélectives dans le choix de leurs partenaires. On peut en déduire par ailleurs que les soins des parents vont promouvoir l'évolution des modes de reproduction de plus en plus complexes.
En général, ce sont les femelles qui investissent le plus dans les soins aux jeunes.
Ah oui, souvent, on connaît ça quand même.
N'est-ce pas ?
Les femelles sont le sexe qui investit le plus dans le soin parental. Mais en fait, il y a quand même de nombreuses espèces à fécondation externe. Et là, les mâles participent bien davantage que les femelles. Et sont même parfois souvent les seuls à fournir des soins parentaux. Dans certains cas, ni le mâle ni la femelle ne procurent le moindre soin aux juvéniles.
Pourtant, il semble évident que de donner des soins aux jeunes et de la nourriture devrait favoriser la survie des descendants.
Eh oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas justement le seul problème évolutif. Si l'évolution était finalisée vers un but ultime, faire de l'adaptation par exemple, nul doute que la solution serait progressivement que les deux parents procurent tout le soin nécessaire aux petits. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si la femelle participe beaucoup à la protection du développement de l'embryon, dans l'œuf ou même dans son propre cœur, dans son utérus par exemple, cela va influencer le comportement du mâle et ça va lui permettre d'aller investir ailleurs que dans le soin. Par exemple, dans la recherche d'autres partenaires, il va pouvoir courir le guidou. Il va donc se développer une forme de tir à la corde évolutif entre le mâle et la femelle.
Donc, si la femelle s'occupe beaucoup des petits, le mâle va aller voir ailleurs et inversement, chez les espèces où le mâle s'occupe des jeunes, la femelle diminue les soins qu'elle porte. Hein.
Oui, mais il ne s'agit pas de choix consentis en fait en soi. Ce sont des tendances évolutives qui se sont développées sous l'effet des tensions entre les mâles et les femelles, sous l'effet de ce qu'on appelle le conflit sexuel. Par exemple, beaucoup de poissons pratiquent une fécondation externe. C'est-à-dire que le mâle féconde des ovules que la femelle a déposés dans le nid. C'est le cas des pinoches par exemple. Du coup, la femelle s'en va après avoir déposé ses œufs. Et c'est le mâle qui apporte tout le soin à la ponte. On retrouve le même soin porté aux œufs chez par exemple le petit crapaud halite. Mais lui va s'emparer des œufs que la femelle pond pour les transporter sur son dos avant d'aller les faire éclore dans la mare. Mais il s'occupe de tout le soin. On voit donc que quand la femelle ne donne aucun soin, le mâle est celui qui pourvoit le plus de soins parentaux. Voilà pourquoi on peut dire qu'il existe une sorte de tir à la corde évolutif. Quand le mâle tire d'un côté, la femelle tire de l'autre.
Au contraire, quand la femelle garde son bébé dans son ventre et lui fournit sa protection, et même du lait nutritif après sa naissance, le mâle va très peu participer aux soins et même souvent disparaître après avoir fait sa petite affaire.
Souvent, oui. Quand le mâle et la femelle copulent, la fécondation interne fait que le développement embryonnaire se poursuit dans ce qu'on appelle le tractus génital de la femelle. Par exemple, chez l'antilope, c'est son utérus. Le bébé va naître presque complètement formé et à la naissance, le petit se met sur pied très rapidement et peut même courir chez l'antilope. Du coup, le mâle d'antilope n'a pas besoin de donner le moindre soin au jeune. Là, la femelle va fournir la quasi-totalité des soins dès le départ par la rétention du développement de l'embryon en elle-même.
Donc, se reproduire reste un exercice très influencé par l'évolution des sexes.
On va dire que dans un premier temps, le mode de fécondation, selon qu'il est externe ou interne, va avoir un rôle très important dans la suite des événements. Déjà, on constate qu'il existe ce que j'ai appelé une sorte de tir à la corde évolutif entre les sexes, et que celui qui procurera le plus de soins va permettre à l'autre d'aller courir le guidou.
Un tir évolutif, comment ça ?
Alors ce tir à la corde, c'est un psychologue russe, Anatole Rapoport, qui a donné ce nom à cette stratégie, mais dans le cadre de la psychologie, pour la résolution d'une tension entre deux individus. Ça fait partie de ce qu'on appelle la théorie des jeux. L'expression anglaise est tit for tat, ce qui se traduit assez difficilement, mais qui se situe plutôt entre les idées de donnant-donnant et de réciprocité. On va dire que si l'autre est hostile, le premier le somme de modifier son comportement et peut même opérer une punition. C'est ce qui se passe dans une discussion entre deux personnes, par exemple. C'est donc un jeu de coopération, punition, réciprocité, pardon. Alors, on est évidemment au départ assez loin d'une entente sympathique dans le couple reproducteur. Et donc, en biologie, contrairement à ce que suppose la théorie de la générosité de Roux-Garden ou encore l'idée d'une entente cordiale, les animaux, chaque individu, devrait normalement pouvoir coopérer les uns avec les autres. Mais il faut pour cela apaiser la tension qui, dès le départ, existe avec les autres activités, et notamment, par exemple, la recherche d'autres partenaires sexuels.
Mais comment comprendre les facteurs qui ont influencé le soin des parents, et comment la division du travail entre les sexes peut-elle s'expliquer ?
Bon, donc il faut comprendre qu'il se joue d'abord une forme de connivence implicite entre les mâles et les femelles. Chacun doit assurer sa part de l'échange pour réussir à se reproduire. Donc, on n'est pas dans une lutte contre un adversaire darwinien. On n'est pas dans une concurrence qui viendrait d'une guerre non résolue entre les sexes. J'ai nommé ça le tir à la corde évolutif parce que chacun des protagonistes du couple doit tacitement garantir qu'il fera tout, en demandant à l'autre une certaine réciprocité dans son comportement. Chacun tire un peu sur la corde et l'autre pour essayer de l'amener à faire un peu plus. L'évolution des relations vont se stabiliser, mais c'est toujours un enjeu dans l'évolution. Et chaque couple, chacun des amoureux du couple, va établir une sorte de contrat plus ou moins stable de partage des activités.
Il faut donc que les deux sexes s'entendent, mais entre la femelle et le mâle, il y a aussi de la suspicion, un peu de crainte, mais aussi une grande envie d'être ensemble.
Tout à fait. Alors, on peut penser qu'à la base du sexe, il existe une forme de conflit entre les partenaires qui doivent apprendre à s'entendre. Ce conflit est déterminé par l'évolution physiologique des mâles et des femelles, par ce qu'on appelle en quelque sorte la divergence des sexes. La divergence des sexes est parfois très marquée. Et chez certaines espèces, le mâle peut se montrer très dominant, voire très violent, comme par exemple chez les otaries à fourrure. En général, la femelle évite le mâle, ou alors elle apprend à se faire respecter, car il faut bien qu'il y ait quand même un accord sexuel si on veut un jour qu'il y ait de la reproduction. Chez d'autres espèces, c'est la femelle qui peut être cruelle avec les mâles. Par exemple, chez la menthe religieuse, elle n'hésite pas, elle peut décapiter le mâle. Mais pour s'entendre entre eux, la relation doit forcément entraîner une connivence, une forme de réconciliation. Cette réconciliation est implicite entre les partenaires sexuels. Alors, c'est ce que j'ai écrit, par exemple, dans un de mes livres, « La guerre des sexes ». Eh bien, cette guerre des sexes, elle n'existe donc que pour évaluer comment se réconcilier sexuellement, et ensuite pour pouvoir coopérer dans la reproduction, si cette réconciliation sexuelle est évidemment bien menée.
Mais cette tension entre les deux sexes conduit à quel travail pour les parents ?
Alors, il va petit à petit y avoir une sorte de partage des tâches, une coopération. Mais il faut d'abord comprendre que l'évolution de l'œuf a été décisive dans l'évolution. Au cours de cette évolution, nous sommes passés d'un œuf qui disposait de rien d'autre que de matériel génétique à un œuf de plus en plus complexe avec notamment ce qu'on va appeler les réserves vitellines.
Des réserves vitellines ?
Oui, c'est-à-dire que c'est un élément nutritif. C'est le vitellus nutritif. C'est ce qu'on voit par exemple dans l'œuf, c'est le jaune d'œuf de la poule. Ça constitue une énorme provision de nourriture et ça va permettre d'assurer le développement de l'embryon. Au départ, on a un ovule et un spermatozoïde. Ils se fécondent et forment ce qu'on appelle un zygote. Le zygote, c'est l'œuf fécondé. Ce zygote va devenir un œuf parce qu'il va se pourvoir de différentes poches et notamment d'un amnios. L'amnios, c'est une membrane qui constitue autour de l'embryon une sorte d'isolement pour les conditions extérieures. Ça va maintenir autour de lui un liquide dans une cavité, c'est la fameuse cavité amniotique. Ainsi, l'embryon dispose de sa petite mère personnelle bien à lui pour se développer tranquillement. L'incubation utilise souvent des nids de végétaux pour les reptiles, le sable des plages, les tortues par exemple. Les oiseaux pondent un œuf très riche en énergie et eux vont garder sa chaleur en le couvant dans un nid. Ensuite, les groupes phylétiques qui vont suivre, notamment les mammifères, vont mettre en place une rétention de l'œuf à l'intérieur du corps de la femelle pour assurer un développement bien au chaud, protéger l'embryon, mais ça se passe dans l'utérus de la femelle.
Donc l'amnios est une enveloppe protectrice du développement de l'embryon.
Oui, c'est pour ça qu'on peut dire que l'amnios c'est vraiment ça constitue la véritable conquête évolutive, parce que l'embryon va maintenant vivre et pouvoir emmener sa petite mère salée bien à lui, son
et
petit océan.
Lui,
c'est avec lui. Et donc, que ça soit dans un œuf ou dans l'utérus, il aura toujours cette petite mère bien tranquille. Alors, l'amnios, ça caractérise le plus grand groupe de ce qu'on va appeler les amniotes. Les amniotes, c'est tous les reptiles, les oiseaux et tous les mammifères. Sans les grenouilles et sans les amphibiens. Donc. Et ça, c'est des animaux qui se sont d'abord adaptés à la vie terrestre. On va dire que l'amnios a permis de quitter le milieu aquatique, puisque chacun emmène sa petite mère personnelle. Mais tout ça, c'est une histoire qui va prendre évidemment beaucoup de temps dans l'évolution avant de se mettre en place.
Donc, tout commence comment ?
Alors, ça commence toujours par la séduction. Les individus tentent d'abord de se séduire, et petit à petit, ils vont développer cette connivence particulière qu'on peut appeler l'amour chez les êtres humains, par exemple. Parce qu'il faut apaiser le conflit potentiel qui pourrait naître de la différence entre les deux sexes.
Les deux sexes ont tout de même un intérêt commun, celui de se reproduire et d'avoir une progéniture.
Ah oui, oui, mais ça ne va pas intervenir au début sur les sexes. Dans cette disparité des deux sexes, on ne pense pas d'abord à se reproduire. C'est au fur et à mesure de l'évolution que cette disparité va être en quelque sorte apaisé, tranquillisé. Le mâle va chercher de nombreuses partenaires sexuels pour pouvoir copuler. Parce que, évidemment, plus il a des partenaires sexuels, plus il va développer ses chances d'avoir une paternité. Si moi, demain, j'arrive à copuler avec 100 femelles, j'aurai 100 petits. La femelle,
c'est
elle va sans bébé, voilà. Mais la femelle, elle va s'organiser pour que chacun de ses petits puisse survivre et se développer. Alors elle, effectivement, ce n'est pas nécessairement en augmentant ses copulations qu'elle va pouvoir développer plus de petits. En fait, une femme, toi en l'occurrence par exemple, maximum tu peux avoir 20 à 30 enfants dans ta,
oui,
dans
ta vie,
ce qui est déjà beaucoup. Mais on voit qu'il y a déjà une disparité importante. On voit que le mâle va être plus proche de la quantité, alors que la femelle, elle est dépendante de sa plus faible capacité à avoir une grande progéniture. Elle peut avoir des petits, mais ça dépendra à jamais du nombre des copulations qu'elle fait. Alors que pour le mâle, plus il copule avec des femelles, plus il accroît ses chances d'une grande progéniture. Voilà donc des bases d'éléments qui vont constituer le conflit d'intérêts. Et ce conflit d'intérêts doit être résolu, puisqu'il faut bien à un moment donné qu'on passe de cette copulation à un autre stade, qui sera celui de l'élevage des jeunes.
Oui, donc le mâle vise plus la quantité et la femelle la qualité.
Alors, j'ai pas vraiment dit ça, mais enfin, c'est quand même un peu ça. Les femelles vont chercher plus la qualité. Mais c'est pas des adversaires ou des concurrents. Il faut bien voir que ce conflit, il s'entraîne entre des individus qui sont, en théorie, semblables dans les mêmes espèces. Mais là, il y a la différence physique et physiologique, et peu à peu, au cours de l'évolution, cette différence est devenue de plus en plus flagrante sous l'effet de ce tir à la corde évolutif. Donc cette différence n'est pas une inégalité, ça n'a rien à voir avec l'inégalité qu'évidemment on peut contester si on est féministe, mais c'est devenu au contraire une divergence dans l'intérêt final de la reproduction. Chacun cherche un partenaire qui lui plaît, mais demande en retour de pouvoir lui accorder une confiance suffisante pour mener ensuite, éventuellement, si on en a envie, un projet reproductif. Il faut donc s'entendre avec la différence de l'autre, et ça commence par la sexualité. C'est donc d'abord la relation amoureuse, la connivence implicite, qui va précéder la reproduction. Et si on a établi un équilibre, une réciprocité minimale entre les deux partenaires, eh bien du coup, on peut apporter des soins aux jeunes. Mais les soins aux jeunes, ça va aussi dépendre de cette divergence des sexes au cours de l'évolution. Puisque selon chaque groupe zoologique ou chaque espèce, il faut toujours trouver un équilibre implicite pour coopérer ou non. Et cette coopération va varier selon l'évolution des différences physiques et physiologiques de chaque sexe, mais dans chaque espèce.
Alors, chaque espèce a peu à peu développé une reproduction ovipare ou vivipare, selon les différences entre les sexes.
Alors, ce n'est pas tout à fait ça, Fiona. Ah. En fait, il faut d'abord interroger les concepts pour bien comprendre. Il est d'usage d'opposer des modes de reproduction ovipare, dans lequel l'organisme expulse les zygotes dans le milieu extérieur, c'est l'œuf, et le mode vivipare, dans lequel l'embryogenèse va être assurée de manière interne, dans le corps de la femelle le plus souvent. Toutefois, l'évolution réelle, l'évolution des cellules sexuelles, ça s'inscrit très mal dans une dichotomie aussi simpliste. Alors, il a fallu ajouter des notions complémentaires. Par exemple, on a ajouté la matrotrophie, quand c'est la mère qui fait un nourrissage interne de l'utérus, par exemple, par le biais du cordon ombilical. Mais cette matrotrophie est placée comme un adjectif, parce qu'elle peut tellement varier. En plus, elle impose l'idée naïve que le nourrissage est toujours maternel. On est déjà là dans un conflit quasiment féministe sur le genre. Alors qu'en évolution, c'est un parti pris, c'est presque un préjugé.
D'ailleurs, c'est toujours difficile de bien comprendre quand une espèce est ovipare ou vivipare, et on place même alors d'autres catégories comme ovovivipare. Alors, s'il faut ajouter matrotrophie ou pas, ça devient très compliqué.
Ah, c'est même encore plus compliqué qu'on croit. Par exemple, si on considère le lézard vivipare, alors c'est un lézard qu'on appelle donc vivipare, c'est son nom d'espèce, Zootoca vivipara, ça peut pondre des œufs quand il vit dans le Massif central, en France par exemple, alors qu'il y a un développement ovovivipare en pleine, parce que la femelle va garder ses œufs à l'intérieur du corps quasiment jusqu'à l'éclosion. Mais en dépit de son nom, le lézard vivipare n'est jamais vivipare. Alors on voit qu'avec de telles variations dans le mode de reproduction, les modes de fertilisation vont conduire à une confusion totale en utilisant ces termes ovipare, vivipare et en essayant de jongler avec les adjectifs derrière.
C'est donc vraiment compliqué, déjà juste pour comprendre les noms, mais comment faire alors pour rechercher l'évolution de tout cela?
Alors en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on croit.
Ah bon.
Sans formuler correctement les particularités de chaque mode de reproduction, on ne peut pas dessiner leur évolution. On ne peut pas comprendre comment ils se sont mis en place. D'autant que l'oviparité est généralement considérée comme un mode archaïque de reproduction par rapport à la viviparité. En fait, pour scientifiquement décrire les modes de reproduction simplement, il est aisé de distinguer 5 modes reproducteurs. Et avec ces 5 modes, on va tout recouvrir, toutes les variations. En se fondant rigoureusement sur l'état du zygote d'une part, et d'autre part sur l'échange du zygote avec les parents. On ne fait plus référence à la matrotrophie, ni à des cas intermédiaires, mal décrits ou confus, car même l'ovoviviparité peut avoir une définition très claire. Mais pour éviter toutes ces confusions ridicules et compliquées, il faut prendre des critères précis et scientifiques.
Alors, voyons cela. Comment décrire rigoureusement les fameux 5 modes de reproduction ?
Alors, voilà, on va s'amuser déjà à bien les clarifier. On va commencer par clarifier la question de l'oviparité. Il existe beaucoup d'espèces qui ne pondent pas des œufs, comme chez la truite, par exemple. Elle émet directement ses ovules. La femelle de ces espèces va donc déposer ses ovules dans un nid que le mâle va féconder avec son sperme. Chez d'autres espèces, comme les oursins, les femelles vont commencer par propager des phéromones qui vont déclencher une réponse sexuelle des mâles. Les femelles émettent alors leurs ovules et les mâles vont émettre leurs spermatozoïdes, mais directement dans l'océan. Et donc, la rencontre des gamètes femelles et des gamètes mâles se fait au hasard. On voit qu'on ne peut pas parler d'oviparité, ça n'a rien à voir avec ce que fait un oiseau. Mmh. Il y a là deux phénomènes très distincts et importants. Chaque sexe va émettre des cellules sexuelles, spermatozoïdes ou ovules, directement hors de son corps. La femelle éjacule ses ovules, le mâle éjacule ses spermatozoïdes. Et la rencontre se fait tout à fait au hasard. La fécondation, ça se passe à l'extérieur du corps du mâle et de la femelle. Donc le mâle éjacule, mais la femelle aussi, elle expulse ses ovules. Et leur rencontre se fait au hasard. Là, on va donc parler d'oviliparité. Oviliparité. Car il n'y a pas d'œuf pondu par la femelle, mais juste des ovules. L'oviliparité se réfère donc au relâchement des ovules à l'extérieur du corps de la femelle, et non pas d'œuf. Et ces œufs sont ensuite fécondés, ces ovules sont ensuite fécondés par la laitance éjaculatoire du mâle. C'est donc un premier mode de reproduction facile à décrire, avec une typologie scientifique qui est complètement compatible avec la réalité.
La femelle pond des ovules par des œufs, donc c'est l'oviliparité.
Voilà, alors de plus avec l'oviliparité, on voit que les différents groupes zoologiques vont peu à peu se rapprocher du corps de l'autre. Alors que les coraux, par exemple, ils envoient leur sperme et leurs ovules en plein océan, mais ils suivent pour ça quand même des phases de la Lune pour se synchroniser, d'autres espèces vont se synchroniser en diffusant des phéromones. Et là, on en retrouve tous les éléments qu'on avait évoqués lors de l'attrait amoureux, vous voyez. Chez les oursins, par exemple, on commence par envoyer des phéromones. Du coup, quand la femelle émet ses ovules, le mâle sait qu'il peut expédier son sperme. Et on va encore plus loin chez les poissons, comme chez le saumon par exemple. Parce que là, on va avoir une tendance évolutive que nous révèle le tir à la corde, c'est maintenant de rapprocher le corps des femelles et des mâles.
Oui, chez les saumons, la femelle pond aussi ses ovules et non pas des œufs fécondés.
Tout à fait, c'est toujours de l'oviliparité. Le mâle va travailler une petite dépression dans les cailloux d'une gravière, il va délimiter une sorte de nid. Il invite la femelle à y venir en tapotant sur ses flancs. Et là, il l'incite à déposer ses ovules. Ce que la femelle fait, ou pas. Elle peut tricher si le mâle ne lui plaît pas assez. Elle peut même faire semblant et juste remuer les graviers. Elle simule en quelque sorte. Comme la fécondation est externe, c'est donc elle qui décide quel mâle féconde ou pas ses ovules. Chez d'autres espèces, cela va encore plus loin. Par exemple, les pinoches, c'est une petite espèce de poisson qui vit dans nos rivières. Le mâle fabrique un gros nid très complexe de végétaux. Il incite la femelle à venir visiter le nid. Et puis il essaie de la séduire avec son grand ventre rouge, etc. Elle va y déposer quelques œufs, et le mâle va s'empresser d'aller vite féconder cette laitance. On est donc toujours dans l'oviliparité, la femelle a éjaculé ses œufs en quelque sorte. Mais ensuite elle va aller voir ailleurs s'il n'y a pas un autre mâle qui n'est pas plus intéressant encore. Et pendant ce temps-là, notre petit mâle, eh bien, il a le choix soit de continuer ses conquêtes, soit aussi de s'occuper tout seul du nid et d'oxygéner les œufs, autrement il va les perdre. Il doit donc aussi surveiller son nid, protéger ses œufs. On voit que ce mode de production ovulipare, où la femelle émet des ovules que le mâle féconde par la suite, ça va conduire à ce que les soins soient faits par le père. Les soins sont ici paternels.
Oui, le mâle va être celui qui procure les soins aux jeunes quand on fait de l'oviliparité.
Tout au début de l'évolution, c'est comme ça que les choses se passent. Il y a donc du point de vue évolutif des corrélations entre le mode de fertilisation des œufs et le soin des jeunes. Avec cette fertilisation externe, puisque la femelle va émettre ses ovules à l'extérieur, on a donc le premier mode de reproduction, l'oviliparité. La femelle dépose ses ovules et le mâle les féconde à l'extérieur. Du coup, l'oviliparité conduit à ce que les parents abandonnent leur ponte plus ou moins dissimulées, et petit à petit apprennent à la dissimuler dans la végétation. Les embryons vont se développer tout seuls jusqu'à l'éclosion, comme chez la plupart des insectes et des crustacés, mais quand les parents doivent apporter un soin, l'oviliparité entraîne en général que ça soit le père, puisque c'est comme ça qu'il saura qu'il est bien le père de petit, et que ça c'est lui qui va apporter des soins, c'est lui qui va travailler. Alors quand on voit les petits mâles de crapaud alide qui apportent des soins, c'est pas parce que c'est des gentils parents, mais c'est parce qu'ils sont obligés de faire ça. Autrement, ça aurait servi à rien que la femelle leur donne des œufs, ils seraient jamais le père de quelqu'un.
Et effectivement. Alors, comme chez les poissons où le mâle fait un gardiennage de la ponte, hein.
Oui, parce que les soins sont paternels. Alors, on voit là que la matrotrophie, elle n'est pas du tout explicative. Elle ne nous sert à rien comme mot dans ce sens-là, puisqu'elle se référait qu'à d'autres modes de reproduction. Donc, on peut l'éliminer. Elle se réfère à la mère et elle ne donne aucun détail sur le type de nourrissage. Là, on a un nourrissage paternel. Et puis, chez les femelles, en général, le nourrissage maternel, il est d'ordre glandulaire, adénotrophie, histologie, histotrophie, et tout ça, ou même lactée, hein, puisque la mère elle peut aussi allaiter ses petits. Donc, on voit que la matrotrophie est un mot qui est trop inutile et pas du tout précis. En plus, le mâle peut lui aussi contribuer au nourrissage des juvéniles. Donc, c'est pas du tout un élément informatif. Donc, on garde comme premier mode de reproduction l'oviliparité.
Et il existe de nombreux cas où il n'y a aucun nourrissage maternel.
Tout à fait. Il y a de nombreux cas où le père ni la mère ne vont s'occuper de quoi que ce soit. Et puis, au contraire, il y a parfois des soins apportés par le père, notamment, par exemple, en protégeant les jeunes, pour les soustraire aux ennuis, hein, comme chez de nombreux poissons, ou même chez les grenouilles. Hein. On voit que l'oviliparité va suivre un chemin évolutif qui s'étale depuis les animaux les plus primitifs, qui vont laisser leur laitance au hasard pour féconder des ovules disséminés au hasard, comme chez les oursins, parfois quand même avec un peu d'aide de la lune ou encore de phéromones, comme chez les carpes par exemple, jusqu'à des animaux qui vont petit à petit se rapprocher l'un de l'autre pour faire des parades sexuelles et déposer leurs spermes et leurs ovules à proximité l'un de l'autre, ce qui va évidemment rendre plus probable la fécondation. Cette parade sexuelle est donc un moment de séduction, mais c'est aussi le moment d'établissement d'une connivence entre le mâle et la femelle. Le mâle doit plaire à la femelle pour qu'elle lui apporte ses œufs. C'est encore elle qui décide. L'évolution a ainsi favorisé petit à petit un rapprochement physique des sexes et une synchronisation des comportements qui vont devenir petit à petit plus efficaces pour même permettre, après cette sexualité, une vraie reproduction.
Ce premier rapprochement des sexes apparaît déjà chez les saumons, par exemple.
Tout à fait. La parade sexuelle permet aux mâles et aux femelles de frayer ensemble, c'est-à-dire de relâcher leurs cellules sexuelles au cours d'une parade amoureuse. Alors, on va parfois encore un peu plus loin, parce qu'on va avancer après les poissons. On a le cas chez les grenouilles. La grenouille verte mâle, par exemple, ou encore le crapaud commun, chante pour attirer la femelle. C'est une vocalisation d'appel amoureux dans la nuit de la mare. Quand la femelle arrive, le mâle tente de monter sur elle. Il s'accroche sur elle et appuie sur ses flancs, la caressant pour l'inciter à émettre ses ovules. Mais la femelle, il faut qu'elle en soit disposée, bien sûr. Si elle est disposée, elle va donc émettre ses ovules et le mâle va les féconder au fur et à mesure qu'elle pond ses ovules. On a donc un chapelet d'œufs qui est déposé, bien que ça soit en fécondation externe toujours, grâce à ce comportement de proximité qu'on appelle un amplexus. L'amplexus, c'est le fait que le mâle, donc, il en serre la femelle. Mais ça reste de l'oviliparité.
Et du coup, la femelle ne sait plus rien, ne fait plus rien. C'est le mâle qui peut procurer du soin aux œufs.
Alors, le rapprochement entre le mâle et la femelle commence juste ici, par ces caresses que le mâle va exercer. L'amplexus, le mâle, il est donc idéalement situé pour féconder les œufs de la femelle, enfin les ovules, qui vont être fécondés au fur et à mesure. Mais souvent, les œufs, après, ils sont abandonnés dans la mare, et les têtards vont se développer tout seuls. Chez d'autres espèces, le mâle va contribuer tout ça, parce qu'il va contrôler et s'emparer de la ponte. On reprend notre petit crapaud alide, par exemple. Eh bien, pendant l'amplexus, le mâle va entourer les chapelets d'œufs autour de ses pattes, et ça va lui permettre de les transporter, même à sec. Mais il ira les protéger, il va les humidifier régulièrement, donc il s'occupe vraiment des œufs, et il dit qu'il sent qu'ils sont prêts à éclore. Le mâle va conduire ses œufs au bord d'une mare pour que les têtards, que l'éclosion des têtards se passe dans l'eau. Chez le crapaud alite, c'est donc le mâle qui va assurer tous les soins jusqu'à la naissance des larves. C'est pour cela qu'on l'appelle le crapaud accoucheur. Alors, on devine évidemment combien l'oviliparité favorise peu à peu au cours de l'évolution un mode de reproduction extérieur, mais qui entraîne un rapprochement intime des deux sexes. Du coup, le père va surveiller sa paternité, mais il va produire beaucoup moins d'œufs. Du coup, il n'est plus le sexe quantitatif. Il va falloir qu'il trouve d'autres femelles. Et plus il aura d'œufs autour de lui, plus ça sera long et difficile. Donc, il est limité par le sexe limitant que devient la femelle. Alors cette intimité va se poursuivre encore, bien sûr, et la sexualité des espèces va petit à petit entraîner un rapprochement l'un de l'autre.
C'était Metal Wings dans un extrait de Crying of the Sun. Nous revoilà sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, dans cette émission où nous nous amusons à décortiquer les drôles d'idées de la biologie. Avec aujourd'hui une question très incommodante. Alors Thierry, nous venons de voir comment l'oviliparité, un des cinq modes de reproduction, allait progressivement avoir deux conséquences. D'une part, favoriser le rapprochement des deux sexes pour faciliter la fécondation. Cela va de la simple parade de l'épinoge jusqu'au pseudo-accouplement des grenouilles, l'amplexus. Et d'autre part, entraîner que le soin parental soit donné par le père plus que par la mère.
Et oui, Siona, comme maintenant le mâle peut voir les œufs, il peut donc assurer sa paternité. Il peut contrôler sa progéniture à la condition, et la seule condition, d'assurer les soins parentaux. C'est donc des soins paternels, c'est le mâle qui va montrer un investissement parental. Comme par exemple chez le petit crapaud halite dont on a parlé tout à l'heure, qui s'occupe tout seul de ses œufs. Il les transporte, les nettoie, les conduit à la mare pour les humidifier, et ensuite il va les conduire à la mare pour l'éclosion. En contrôlant la ponte de la femelle, le mâle va aussi apprendre à déjouer ses rivaux, puisqu'il protège sa propre descendance, en empêchant qu'un autre mâle puisse aussi essayer de féconder ces fameux œufs dont il s'est emparé auprès de la femelle.
L'alite mâle fait tout le travail. Ça ressemble à des gentils papas, mais en fait, ils essaient surtout de contrôler leur progéniture.
Alors pour la reproduction, oui. Ça montre que l'évolution va entraîner peu à peu un glissement depuis l'expulsion pure et simple de la laitance ou des ovules, vers un système qui va être de plus en plus sophistiqué, où mâle et femelle commencent à s'associer. Ça, c'est la sexualité. Mais avec l'oviliparité, cette reproduction particulière, ça va être au mâle de prendre soin des jeunes, et du coup c'est la femelle qui peut rester courtisée, et elle peut avoir plusieurs mâles en même temps, courir le guidou et continuer à séduire d'autres mâles, ou même être courtisée. À elle revient une part de la reproduction qui va rester un rôle sexuel majeur, celui de tester la valeur des mâles, pendant la parade nuptiale, etc., afin de vérifier leur aptitude. Bref, c'est elle qui va être le sexe limitant, celles qui vont se montrer, qui vont pouvoir se montrer exigeantes sur le choix des mâles.
Tout à fait, mais et les poissons ovulipares, ils s'occupent peu de leur couvée ?
Alors comme toujours, chez tous les animaux ovulipares, par exemple chez le poisson trompette, ou chez beaucoup d'autres, l'expulsion des ovules et du sperme se fait en pleine eau, et les œufs et les larves vont se développer dans le plancton, en pleine eau, sans avoir besoin du tout de soins. Donc moi, les femelles vont pouvoir repartir au guidou. Mais beaucoup de poissons se contentent d'attirer la femelle dans un nid pour qu'elle dépose ses ovules, et le mâle va alors les féconder. Ensuite, elles peuvent abandonner le nid, mais de nombreuses espèces vont commencer à s'en occuper. Les mâles vont ventiler les œufs, les nettoyer aussi, et peut-être même surveiller les poissons juste éclos quelques temps après leur naissance. Par exemple, chez les Ancistrus, les mâles attirent les femelles, les œufs sont pondus dans la cachette de façon à être à l'abri des prédateurs, et le mâle va rester à proximité des œufs pendant toute l'incubation. Il va même éliminer les œufs chargés de moisissures pour éviter que les autres ne soient contaminés, et il va les nettoyer. Aussi, après les avoir fertilisés, chez certaines espèces, elles vont même carrément incuber les œufs dans la bouche. Elles vont donc les garder dans la bouche pour les garder dans des conditions stables de l'environnement. Donc le mâle ne mange plus, il attend que les alevins soient plus indépendants, et donc on voit que les mâles savent très bien s'occuper des pontes.
Mais l'évolution va encore se poursuivre, et bientôt les mâles vont carrément investir le corps des femelles, en pratiquant les fécondations internes.
Alors pas tout de suite. Ah. Avant d'investir le corps des femelles, il va y avoir cette étape intermédiaire qu'on appelle l'oviparité. Alors l'oviparité se définit toujours très facilement, très simplement par rapport à l'ovuliparité. Là, on a le mâle qui féconde la femelle, mais en apportant du sperme jusqu'au tractus génital. La femelle est donc fertilisée à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de son corps. Et du coup, elle relâche les œufs qui sont déjà fécondés. Elle va relâcher des zygotes et non plus des ovules, des œufs réellement fécondés. C'est-à-dire qu'elle pond. L'insémination est donc interne, et la femelle ensuite va assurer la ponte des œufs déjà fertilisés. Alors on voit que déjà là, elle va s'occuper de quelque chose. Mais le rapprochement des sexes peut encore être très limité. On parle par exemple de fécondation indirecte, par exemple chez les tritons. Le mâle va effectuer une parade autour de la femelle et il essaie de la séduire. Si elle le regarde, s'arrête de nager, le mâle excité va émettre un spermatophore, c'est-à-dire un petit paquet de sperme, et attendre. Si la femelle est intéressée, elle attrape le spermatophore avec les lèvres de son cloaque et la fécondation va donc avoir lieu à l'intérieur de son tractus à elle, c'est-à-dire à l'intérieur de son propre corps. Elle se féconde elle-même. Il s'agit donc d'une fécondation indirecte par le biais de la femelle qui attrape ou non le spermatophore du mâle. Du coup, d'un point de vue évolutif, il faut comprendre deux choses. Premièrement, avec l'oviparité, la femelle va se montrer très exigeante. Mais deuxièmement, en revanche, elle va commencer à s'occuper un petit peu de sa progéniture et même parfois à la place du mâle.
La fécondation se déroule dans la femelle. Mais c'est elle qui accepte le sperme du mâle.
Tout à fait, c'est encore elle qui prend la décision. L'oviparité est caractérisée par cette fécondation interne, et c'est la femelle qui va pondre après la fécondation. Le corps ne fait pourtant que assurer que la fécondation ait lieu dans un milieu protégé, avec une chaleur continue. La femelle va donc produire aussi un œuf plus gros, plus résistant, un œuf muni de réserves vitellines qu'elle va fournir elle-même, et qui va favoriser le développement des embryons. On voit qu'avec l'oviparité, la femelle donne déjà un investissement parental avant la ponte. Chez les animaux les plus primitifs, l'œuf est encore peu garni. Mais progressivement, avec l'évolution, l'œuf va grossir et comporter tout un ensemble d'enveloppes supplémentaires pour protéger l'embryon. Il y a le corion, par exemple, et puis surtout, on va voir apparaître à partir des reptiles et des oiseaux, l'amnios. Alors l'amnios est une poche qui va envelopper l'embryon et favoriser son développement dans sa petite mère intérieure à lui tout seul. Il sera ainsi protégé des influences de l'environnement extérieur.
Du coup, le développement de l'embryon est abrité à l'intérieur d'un œuf, comme chez les oiseaux.
Voilà, avec la fécondation interne, l'œuf va devenir une structure beaucoup plus complexe, accompagnée de réserves alimentaires, c'est ce qu'on appelle le vitellus, qui vont nourrir le développement de l'embryon. En fait, on appelle ça de la lécitotrophie. On voit que la batrotrophie, ce n'était pas un nom du tout adapté. Là, c'est un œuf lécite qui comporte déjà des nutriments. Et grâce à sa poche amniotique, l'embryon est aussi protégé des conditions extérieures. C'est ce qui va permettre aux reptiles, par exemple, de coloniser les milieux secs. Alors que la plupart des amphibiens, les grenouilles, doivent retourner à l'eau pour pondre, les reptiles et les oiseaux vont s'affranchir de l'eau. L'œuf est pondu à terre, même dans des milieux très secs, même dans les déserts, puisque l'embryon dispose de son eau personnelle. L'oviparité va donc permettre la conquête de tous les milieux terrestres au cours de l'évolution.
Est-ce qu'il existe aussi des poissons ovipares, c'est-à-dire qui pondent des œufs, car le mâle a fécondé les œufs à l'intérieur du corps des femelles?
Oui, on a vu beaucoup de poissons étaient ovulipares, mais la plupart des requins, par exemple, vont s'avérer généralement ovipares, et d'autres poissons vont aussi s'avérer ovipares. Chez les requins, le mâle possède deux ptérygopodes, ce sont deux organes d'intromission, de sorte deux pénis, qui se voient très bien sous la nageoire anale. Ils vont introduire ces ptérygopodes, enfin un de ces deux ptérygopodes, dans l'orifice génital des femelles pour la féconder. En fait, avec sa gueule, le mâle va attraper la femelle par la nageoire, il va l'immobiliser, et là, la femelle peut être fécondée. C'est parfois assez violent chez les requins. Ensuite, la femelle va pondre des œufs, et ces œufs sont enveloppés dans une capsule cornée, assez transparente, que la femelle va fournir, qui possède souvent des spirales de chaque côté, parce que ça permet la fixation de la poche de cet œuf dans les algues ou dans les rochers, ou même c'est souvent des poches d'œufs qui sont protégées à l'intérieur de cet amas.
Mais les reptiles et les oiseaux vont copuler pour féconder les œufs de la femelle.
Alors, on va avoir, là encore, un rapprochement des sexes, mais il ne s'agit toujours pas d'une copulation vraie. Le plus souvent, le mâle va juste expulser son liquide spermatique de son cloaque en le retournant brutalement vers le cloaque de la femelle. La fécondation est donc réellement interne, mais il n'y a pas de pénétration. Chez certains oiseaux, le mâle va utiliser petit à petit un nouvel organe qui est apparu dans l'évolution. C'est un pseudophallus. Et les reptiles vont développer deux hémipénis qui vont pénétrer la femelle. Alors là encore, chaque reptile va choisir, il va être gaucher ou droitier, il va choisir l'un de ses hémipénis pour féconder en priorité les femelles. Mais il faudra attendre encore pour avoir un vrai pénis qui se met en place, par exemple chez les tortues.
Et chez les mammifères aussi, car il existe des espèces de mammifères qui pondent des œufs.
Oui, chez les mammifères très primitifs, ce qu'on appelle prototériens, c'est par exemple l'échidné ou le très très célèbre ornithorynque. Ce sont des ovipares, l'échidné pond un œuf et le couvre à l'intérieur de sa poche marsupiale, mais l'ornithorynque, lui, va déposer ses œufs dans un nid de végétaux, généralement un peu humide, à l'intérieur d'un terrier. Ce sont des gros œufs parce qu'ils sont pourvus en vitellus, contrairement à tous les autres mammifères qui vont avoir des œufs dits halicites.
Mais alors, cette apparition de l'oviparité, ça a changé quoi dans l'évolution des espèces?
Ah ben voilà, une belle question. Ça va changer beaucoup de choses. Car maintenant, les ovules de la femelle sont approchés beaucoup plus près et l'organe d'insémination des mâles leur permet de pénétrer les femelles et donc de s'assurer au mieux qu'ils seront vraiment les pères de cette couvée. En même temps, cette fécondation interne leur cache la réalité de cette paternité. Et ils vont donc devoir surveiller la réalité de sa fécondation. Alors ça enclenche deux conséquences. D'une part, les mâles vont courtiser beaucoup plus fermement les femelles parce qu'il faut les approcher, les séduire, c'est plus compliqué de les toucher. Et puis, ils vont également tenter de multiplier leurs aventures avec d'autres femelles. Puisque plus le mâle aura des femelles, plus évidemment il aura des descendants. Par exemple, chez moi, si je veux, je peux avoir facilement une centaine d'enfants. Il suffit que je trouve...
Une centaine, oui.
Il faut que je trouve 100 femmes, c'est tout. Mais 100 femmes dans la vie d'un homme, c'est pas infaisable. Mmh. Une femme, par contre, elle peut pas avoir plus d'une vingtaine d'enfants au cours de sa vie.
Oui, déjà
c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc voilà une des conséquences importantes. On s'aperçoit que les mâles vont donc rester plus longtemps près des femelles. Ils vont donc avoir tendance à surveiller les femelles pour être certain qu'elles ne se laissent pas courtiser par d'autres. Mais ça, c'est contradictoire parce qu'il faut aussi qu'ils puissent s'occuper des petits. Donc du coup, c'est petit à petit les femelles qui vont avoir ce travail à faire.
Et les femelles qui couvent, elles ne peuvent plus s'assurer de la fidélité de leur partenaire.
Tu as raison, parce que la ponte nécessite des soins. Chez les crocodiles, par exemple, la femelle protège les œufs dans un tas de végétaux qui vont pourrir et qui vont assurer un développement dans cette chaleur-là. Elle surveille le nid, elle assure la thermorégulation, tout ça avant l'éclosion des jeunes. Le mâle, lui, peut donc aller courir ailleurs, puisqu'il ne prodigue aucun soin. Mais il y a de nombreux oiseaux qui ont commencé à mettre en place une stratégie de tit for tat, de tir à la corde évolutif. Certes, la femelle peut incuber les œufs, mais elle choisit sérieusement son mâle. Elle lui laisse faire la cour et même elle lui demande que ce soit lui qui construise le nid. Et après tous ses efforts, la femelle va supposer que le mâle va continuer à l'épauler, à la nourrir, par exemple, pendant la couvaison.
En quelque sorte, elle teste le mâle avant de s'accoupler. Le mâle est séduisant s'il promet d'aider la femelle pour avoir des petits.
Alors c'est un peu ça, c'est un petit peu un jeu de dupes, puisque d'un côté le mâle va arrêter de courir, mais qui reste nourrir la femelle, mais de l'autre côté il peut aussi le faire, et chercher d'autres femelles à...
Mais oui.
Alors ça arrive chez de nombreuses espèces, et la femelle elle peut même abandonner le nid si le mâle ne revient pas nourrir les juvéniles. C'est donc une sorte de donnant-donnant, de tir à la corde évolutif. Mais la femelle est confrontée à un problème. Plus elle a commencé à investir sa couvée, par exemple en couvant jusqu'à l'éclosion, moins elle aura envie de sanctionner le mâle s'il va courir ailleurs. C'est un peu le dilemme de l'arrêt de bus. Si on vient de rater le bus, est-ce qu'il vaut mieux attendre le prochain, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux partir à pied? Alors si on vient juste de le rater, ben, en général, on a plus tendance à dire ben, autant partir par d'autres moyens, puisque le prochain arrive dans longtemps. Mais si en revanche, ça fait déjà longtemps qu'on attend, ça vaut plus le coup d'arrêter d'attendre. Au contraire, il faut plutôt se dépêcher d'attendre, en quelque sorte, les quelques dernières minutes qui restent. Donc on voit que l'avantage va être donné là, à un problème d'investissement dans la couvée. Plus elle aura investi, moins la femelle aura envie de courir ailleurs. Du coup, les stratégies de contrôle des femelles par les mâles peuvent exister. Mais il y a aussi des stratégies de divorce, bien sûr, si le mâle ne fournit pas assez d'efforts. Mais il y a souvent d'autres solutions beaucoup plus plaisibles qui vont être mises en place petit à petit.
Tu veux dire que plutôt que la jalousie et la surveillance, les animaux déploient des comportements moins intrusifs et plus tranquilles?
Oui. Souvent, il s'établit une sorte d'équilibre en fonction du comportement de l'autre. C'est un tir à la corde évolutive dans ce conflit sexuel, mais on peut tirer très doucement. Alors pour cela, mâles et femelles, chez la plupart des espèces, on parle par exemple de 85% des cas chez les oiseaux, ils ne sont pas vraiment monogames. Si les mâles et les femelles s'associent ensemble pour copuler et élever des petits, ils admettent tout à fait qu'il y ait des coups de canif dans le contrat. Chacun s'accorde des aventures sexuelles extérieures au couple, mélangeant avec d'autres les gènes de la couvée. Le mâle, par exemple, va aller féconder d'autres femelles au cours de ses pérégrinations. Ça ne l'empêche pas de revenir nourrir sa femelle préférée. Et la femelle, elle peut aller copuler avec d'autres mâles pour obtenir une couvée plus variée. Ça ne l'empêche pas de recevoir des amis à domicile, quoi. On sait que chaque couvée n'a été fécondée en moyenne qu'à 45% par le père officiel, celui qui participe au nourrissage. C'est donc que 55% ont été fécondés par d'autres femelles ou d'autres mâles. Une méthode qui va évidemment exiger que le mâle participe, mais ça ne garantit pas du tout la fidélité chez les petits oiseaux.
En fait, le nid douillet des oiseaux cache bien des mystères et bien des tromperies.
Oui, mais en même temps, la durée d'incubation des œufs démontre combien la température et l'humidité ont été des contraintes évolutives majeures sur le développement de ces modes de reproduction. Alors, on l'a vu dans la mise en place d'un œuf amniotique pourvu d'un amnios qui va conserver l'eau. Du coup, on va découvrir un stade intermédiaire avant d'obtenir une protection encore plus avancée du développement des jeunes. Chez des poissons comme les raies, par exemple, qui sont ovipares, on voit qu'il existe une multi-oviparité. Les œufs peuvent s'accumuler avec des âges différents à l'intérieur des oviductes des femelles, qu'elles pondront quand elles voudront.
Donc cela signifie que les femelles ne vont pas pondre leurs œufs, même quand ils seront prêts à éclore?
Oui, c'est un peu ça. On voit apparaître une forme de rétention à l'intérieur de l'oviducte des femelles. Et cela ressemble déjà à ce que va être le troisième stade, qu'on va appeler l'ovoviviparité. L'ovoviviparité, ça va être une oviparité, mais de rétention. De plus, il commence déjà à y avoir des nutriments qui sont fournis aux jeunes. Dans l'oviviparité, les petits reçoivent quasiment rien. Dans l'oviparité, peu à peu l'œuf est pourvu d'une grande quantité de nutriments, le vitellus. Mais avec l'ovoviviparité, cette quantité est plus restreinte, car le développement nécessite moins d'énergie, puisque le petit va rester protégé à l'intérieur d'un abri, en fait à l'intérieur de l'utérus, du tractus génital de la femelle.
L'ovoviviparité ressemble quand même aussi à une étape intermédiaire. Est-ce que c'est facile à définir?
Oui, très simplement. On a vu que l'ovuliparité existait quand la femelle émet juste ses ovules et le mâle émet juste ses spermatozoïdes en plein milieu extérieur. L'oviparité existe quand la fécondation est interne et que la femelle fécondée va juste développer ses zygotes, ses œufs. Elle va pondre. L'ovoviviparité est-elle caractérisée par une incubation à l'intérieur du corps d'un des deux parents? Il y a donc une rétention de l'œuf. On garde l'œuf au chaud dans le corps. Le plus souvent, c'est le corps des femelles. Mais la protection du développement embryonnaire s'arrête là. La femelle ne nourrit pas le jeune avec quoi que ce soit. Elle ne fait que retenir l'embryon dans son développement à l'intérieur de son corps. Par exemple, chez la vipère péliade, la femelle garde ses œufs à l'intérieur de ses oviductes et les expulse dès que les petits sont développés. L'enveloppe de l'œuf se casse alors, et c'est ce qui donne l'impression que le petit semble surgir du ventre maternel. mais ça reste de l'ovoviviparité.
D'accord. La coque molle de l'œuf se déchire à la naissance et les petits sortent alors. Mais il existe des mâles qui peuvent aussi faire preuve d'ovoviviparité ?
Oui, c'est une très bonne question. La rétention des œufs peut se faire quasiment n'importe où dans le corps des animaux. Et le mâle peut aussi participer. Mais en fait, c'est un peu plus rare. On connaît par exemple le cas de l'hippocampe. Le mâle de cet hippocampe va courtiser la femelle. Et comme chez beaucoup d'espèces à fécondation externe, s'occuper d'attraper les œufs pour les garder dans une poche incubatrice. C'est à cause de cette poche qu'on a cette impression que le mâle va accoucher de jeunes déjà formés. Mais en fait, il ne fait que garder les œufs dans des petites logettes de son ventre le temps d'incubation. C'est donc bien un ovovivipare, car il n'existe rien d'autre que la protection interne que propose le mâle. Mais le mâle lui-même ne va pas nourrir les jeunes de sa portée.
Et donc, chez ces ovipares, la fécondation est encore interne ?
Alors, chez tous les ovovivipares, par exemple, les guppies sont des petits poissons très colorés et ils sont ovovivipares. Le mâle dispose d'une nageoire anale qui est modifiée, qui lui permet d'expulser sa laitance à l'intérieur du cloaque de la femelle. La fécondation est donc interne, car elle a lieu dans l'appareil génital de la femelle. Un accouplement suffit en général pour deux ou trois portées différentes. Cette espèce est ovovivipare parce que les œufs éclosent juste au moment de la ponte.
Il existe aussi des grenouilles qui retiennent leurs œufs dans leur corps. Elles sont ovovivipares.
Oui, tout à fait. Alors, on a par exemple les crapauds aplatis du genre pipa en Amérique. Au cours de leur ponte, les œufs atterrissent dans des petites loges directement dans la peau du dos de leur mère, où ils sont placés et ils sont incubés. Ils vont s'insérer dans les replis de l'épiderme, qui va se refermer par un opercule, et là, ils vont y avoir donc une incubation de type cutané sur la peau. Elles ne les relâchent pas sous la forme de têtards, mais directement sous la forme de petits crapauds. C'est un mode de développement un peu semblable qu'on va retrouver par exemple chez les mâles d'hippocampe qui possèdent une ou deux poches incubatrices. Mais il y a aussi la petite grenouille australienne, Rheobatrachus, qui pratiquait une incubation gastrique, une incubation dans son estomac. Alors elle s'arrêtait de manger pendant plusieurs semaines, la digestion de ses propres œufs va être limitée ensuite par les sécrétions des prostaglandines.
Tu en parles au passé ?
Oui, c'est une grenouille qui a disparu dans les années maintenant 80.
Pourtant, c'est exceptionnel, effectivement. Oui. Il existe aussi de l'ovoviviparité chez de nombreux reptiles, par exemple.
Oui, on en a parlé, par exemple, chez la vipère péliade ou chez l'orvet. Mais on a aussi tous les lézards qu'on appelle les syncidés, les cinq. L'incubation interne chez ces lézards se fait dans l'oviduct de la femelle. Et la coquille très fine est détruite lorsque la femelle expulse ses jeunes. Cette rétention d'œufs en développement améliore l'embryogénèse des jeunes, le développement des jeunes, et ça va réduire leur mortalité. En plus, on a une accélération du développement des œufs à l'intérieur de l'utérus par rapport à ceux qui sont incubés dans un nid.
L'ovoviviparité constitue une adaptation pour ne plus pondre dans la nature, finalement.
C'est ça. Avec l'ovoviviparité, l'œuf fécondé va généralement rester à l'abri du corps de la femelle, souvent dans ses oviductes. Il s'agit donc d'une exaptation, car l'oviducte va se développer pour devenir plus musculeux. Il va être apte à recevoir le développement des petits jusqu'à leur stade larvaire, où ensuite ils seront expulsés. Alors qu'au départ, ce tractus génital était juste destiné à éjecter des ovules hors du corps maternel, il va se pourvoir d'une muqueuse plus épaisse, plus élargie, et au lieu d'expulser les œufs, il va même les garder un certain temps, puisqu'il va les garder jusqu'à la ponte.
On a vu que les amphibiens semblent présenter toutes les caractéristiques des différents modes de reproduction.
Oui, en effet, ce groupe zoologique semble avoir tout essayé, en fait, dans l'évolution. Mais c'est aussi le groupe zoologique qui comporte une écologie intermédiaire, qui l'oblige à s'installer dans des niches écologiques très diversifiées, en général dans l'eau, de la mare ou dans les rivières, mais jusque dans les montagnes ou dans les forêts. Le grand problème de la conservation de l'eau pour le développement des juvéniles est tout à fait illustré par tous les groupes d'amphibiens qui ont trouvé tout un ensemble de solutions intermédiaires très originales et parfois inédites. Ces solutions de reproduction parcourent ainsi tous les dispositifs reproducteurs, depuis le mode le plus primitif de reproduction chez de nombreuses grenouilles, ça c'est l'oviviparité par exemple.
Quand le mâle et la femelle expulsent leurs ovules et leur laitance, en les laissant se débrouiller.
Oui, tout seul dans la nature. Mmh. Et ça va jusqu'à l'oviparité des tritons qui déposent leurs œufs dans la végétation aquatique, et encore plus même jusqu'à l'ovoviviparité de certains amphibiens, par exemple les amphibiens apodes, et aussi de la salamandre terrestre ou encore des crapauds pipa, qui retiennent leur petit étard dans des poches de leur peau ou dans leur tractus génital selon l'espèce. Et surtout, nous allons voir qu'il existe même des amphibiens qui ont inauguré toutes les formes particulières de ce qu'on peut appeler la viviparité.
Oui, parce que la salamandre terrestre, c'est l'animal jaune et noir bien connu, mais on sait qu'elle garde ses œufs en elle et les libère dans les ruisseaux en fin d'hiver, sous forme de petites larves.
Tout à fait. La salamandre terrestre est ovovivipare. Elle libère des petits déjà vivants dans les ruisseaux forestiers. Mais elle n'est pas seulement jaune et noir. Il existe des sous-espèces très très intéressantes parce qu'elles ont inventé une autre forme de reproduction. Reproduction jusqu'à présent sur la planète très inhabituelle. Nous allons voir au cours de l'évolution que ces modes de reproduction chez des espèces très proches, comme par exemple la salamandre noire, est évidemment différent.
Et oui, le noir leur va si bien. Nous écoutions un petit rébético avec Daphné Patakias. De retour sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, pour bousculer notre tête avec science en liberté. Et aujourd'hui, nous parlons de la conquête de la viviparité. Nous venons de passer en revue l'ovuliparité, l'ovoparité et même l'ovoviviparité, en rencontrant à chaque fois une tension entre mâle et femelle. Mais à chaque fois, la différence dans les soins des petits s'est renforcée. Bon, en fait, Thierry, le plus connu des modes de reproduction, c'est la viviparité, en fait.
Eh oui, sans doute, si on a la viviparité. Les vivipares sont pourtant apparus très tard dans l'évolution, après les ovipares, à l'Oligocène, il y a environ 40 millions d'années. Ce mode de reproduction est plus complexe qu'il n'y paraît. Et on va découvrir que la classification en 5 groupes est importante pour comprendre cette évolution. Nous avons donc d'abord l'oviparité, ce sont des ovules et des spermatozoïdes qui sont émis par les femelles comme chez les truites ou encore par les grenouilles, et des spermatozoïdes par les mâles. Ensuite, on a l'oviparité qui nécessite une fécondation interne. Le mâle est alors pourvu souvent, pas toujours, mais souvent, on l'a vu, d'organes d'intromission. Par exemple, les oiseaux vont féconder juste en expulsant le sperme dans le cloaque des femelles et n'ont pas d'organes d'intromission, mais les reptiles, oui. Ensuite, on a l'ovoviviparité. Alors là, c'est une rétention. La femelle, le plus souvent, va retenir le développement interne de ses petits à l'intérieur de son corps. On a vu le rôle du tractus génital. Et la larve reçoit des nutriments que de ses propres réserves à elle, vitelline. La femelle ne nourrit pas les jeunes à l'intérieur de son corps. Ce mode va donc se caractériser par la ponte d'œuf juste avant ou juste après leur éclosion dans le milieu. Ça donne une apparence de viviparité puisque le petit sort vivant. Mais ça reste de la rétention et de l'ovoviviparité. Et puis, il reste maintenant la viviparité vraie, où le développement d'embryon se poursuit jusqu'à la naissance d'un individu complet parce que son développement est assuré par des nutriments que la mère lui donne. Ils sont fournis par la mère, c'est ce nourrissage.
Directement.
Donc là, on voit la différence entre l'ovoviviparité, où la femelle n'apporte rien, ou le mâle d'ailleurs n'apporte rien, puisque ça peut se passer aussi dans le corps du mâle, et la viviparité, où là, on va voir que c'est la femelle qui va apporter le nutriment des jeunes. Du coup, plus besoin du jaune d'œuf, plus besoin du vitellus, hein, évidemment. Et donc, on va voir aussi qu'il existe deux versions très différentes de cette viviparité. On a la viviparité histotrophe et la vraie viviparité hémotrophe, celle qu'on appelle aussi viviparité placentaire. Alors, ça fait beaucoup de mots, mais il faut retenir qu'il y en a deux, la viviparité histotrophe et la viviparité hémotrophe. Évidemment, le terme viviparité aplacentaire n'a pas de sens en biologie, puisqu'on se référait à l'absence d'un organe, donc ça n'a aucune valeur informative sur son évolution.
Ici, la fécondation est encore interne et les mâles ont développé toutes sortes de phallus.
Alors oui, là maintenant on voit apparaître des vrais organes d'intromission qui vont varier, mais dont la fonction reste de pénétrer la femelle, et ça va enclencher l'obligation de se mettre d'accord entre les deux sexes, parce que maintenant il va falloir se toucher, se séduire. Les organes d'intromission sont très variés. On a par exemple les gonopodes chez les insectes, on a les deux ptérygopodes chez les requins, on a deux phallodéums chez les amphibiens à podes, deux hémipénis chez les reptiles. Bon, il faut noter qu'à chaque fois, il n'y en a qu'un seul d'utilisé, ce qui fait qu'il existe des serpents droitiers ou des lézards gauchers, parce qu'ils copulent côte à côte avec la femelle. Enfin, bien entendu, il y a les phallus internes des oiseaux, et puis après, on va voir apparaître le pénis chez les tortues et chez les mammifères. Chacun de ces organes s'est développé d'une manière indépendante, mais il offre toujours que la pénétration du mâle va favoriser une éjaculation très proche des ovules et donc que la fécondation sera interne.
Nous avons vu qu'il y avait déjà eu des animaux qui s'approchaient de ce mode vivipare, de la viviparité, en faisant de l'ovoviviparité.
Alors, ça, c'est totalement vrai, mais l'ovoviviparité, dans l'ovoviviparité, l'organisme n'assure que l'accueil des zygotes et la protection durant le développement embryonnaire. Dans ce cas, il y a des annexes embryonnaires qui ne diffèrent pas fondamentalement des structures ovipares. Et on peut presque assimiler ce mode de reproduction ovovivipare à une retenue des œufs fécondés, qui est simplement prolongée jusqu'à leur terme, jusqu'à leur éclosion à l'intérieur du corps ou juste à l'extérieur du corps de la femelle. Les facteurs qui vont déterminer cette rétention de la ponte, c'est le froid et le manque d'eau. Et nous allons comprendre mieux cela avec les amphibiens, et notamment avec notre salamandre.
Ah, nos fameux salamandres tachetés de noir et de jaune, qui vivent dans le bocage.
Eh oui, on en voit de temps en temps passer sur les routes comme ça. Alors la salamandre terrestre présente une reproduction qui est généralement ovovivipare, c'est-à-dire que les œufs sont gardés dans les oviducts de la femelle jusqu'à l'éclosion des larves. Et celle-ci va libérer ses larves directement dans le ruisseau sous la forme d'une trentaine de petites larves avec des pattes mais aussi des branchies. Pourtant, on connaît une sous-espèce de cette salamandre, la salamandre des Pyrénées, Salamandra bernardesi. Elle fait naître que deux petits bébés salamandres seulement, que deux. Mais voilà, ce sont les deux plus gros bébés de salamandre et ce ne sont pas des larves.
Ce qui veut dire que la mère les a portés jusqu'à la naissance, donc cette salamandre est ici vivipare.
Voilà, on n'est plus dans le mode ovo-vivipare, mais on est dans le vrai mode vivipare. Mais en fait, c'est pas vraiment le même. On va voir que c'est une viviparité très primitive. Je t'explique. Cette viviparité, elle est dite histotrophe, car la salamandre n'a pas d'organe placentaire qui lui permettrait de nourrir les jeunes quand ils sont encore blottis dans les oviductes. Elle ne les nourrit pas comme cela, et les petits naissent pourtant formés. En fait, c'est donc bien une viviparité, puisque les petits sont nourris à l'intérieur du corps, mais la femelle ne le fait pas totalement.
Un mystère, mais comment expliquer cet étonnant fait chez une salamandre? C'est juste un amphibien, quoi.
Alors, au départ, c'est apparu comme une véritable énigme. On assistait à la naissance de deux petits seulement, et la même histoire se reproduit chez d'autres salamandres, comme par exemple la salamandre noire qui vit en montagne. Il y avait donc une explication. Chez la sous-espèce Fastuosa, il y a une métamorphose partielle qui se déroule dans l'oviducte. Chez la salamandre terrestre des Pyrénées ou chez la salamandre noire, il y a deux larves qui vont se métamorphoser totalement à l'intérieur des oviductes. Et donc l'animal, la mère, va mettre bas deux juvéniles parfaitement formés, un pour chaque oviducte. Deux petits, ça reste logique vu leur taille. Chacun va occuper un des deux oviductes de la femelle dans son entier. Mais pourquoi sont-ils si grands et comment font-ils pour se développer? La question se posait parce qu'on n'a jamais identifié d'organes qui permettraient de donner des nutriments à ces petits depuis la mère, jusqu'au juvénile. Hein, il n'y a pas de placenta par exemple.
Il faut pourtant bien que les deux petites salamandres trouvent à manger dans cet oviducte.
Oui, parce que c'est étroit un oviducte. Alors, on avait déjà remarqué durant l'étude des cécilidés, ce sont des gros amphibiens apodes hein, qui ressemblent à des sortes de gros vers de terre, que les embryons étaient munis de dents très pointues et que nos petites salamandres étaient aussi pourvues d'une petite dentition primitive. Pourquoi faire? Pourquoi avoir des dents quand on est encore un embryon? Mais c'est que c'est redoutable l'évolution, car leur petite dentition leur permet de manger d'abord les autres œufs non fécondés la mère continue à avoir dans ses oviductes. La mère va donc nourrir ses petits, mais par la pompe d'ovule. Mais aussi, ils vont arracher des lambeaux de la muqueuse des oviducts pour s'en nourrir sur la faim. Ouais. Alors ça repousse un peu quand on suppose que quand les juvéniles grignotent trop fort, là, la mère va accoucher très vite de ces petits qui sont si désagréables.
Effectivement, il y a donc une mère qui donne de la nourriture pour assurer le développement des embryons. C'est quand même très primitif comme mode de viviparité.
Ah oui, ça, c'est un mode de viviparité très primitif, pionnier. C'est pour ça qu'on l'appelle viviparité histotrophe.
Ah oui. En effet, cela reste très primitif, mais pionnier aussi.
Alors, c'est facile à comprendre. On a affaire ici à une viviparité histotrophe. De trophée, je mange, et histo qui veut dire des tissus vivants. On mange des tissus vivants. Parce que les embryons se nourrissent des œufs non fécondés. Donc ça, c'est de l'oophagie. Que leur mère leur envoie régulièrement. Donc cette oophagie, chez les juvéniles, ils consomment juste les œufs fécondés ou non fécondés de la femelle. Mais ça va encore plus loin, parce qu'ils vont dévorer un à un tous leurs petits frères et sœurs au fur et à mesure qu'ils éclosent. C'est donc devenu une adelphophagie, on mange notre petit frère. En fait, la métamorphose partielle ou totale n'est possible que grâce à cet artifice particulier, ce qu'on peut assimiler à du cannibalisme intra-utérin, l'adelphophagie. Les larves les plus précoces vont se nourrir au fur et à mesure des ovocytes ou directement des embryons les plus tardifs. Ce cannibalisme intra-utérin va assurer le développement larvaire et ça va surtout assurer que ce développement soit possible à l'intérieur de chacun des deux oviductes de la femelle.
La viviparité commence donc en fait par du cannibalisme.
Eh oui, on trouve aussi ce cannibalisme quasi intra-utérin chez de nombreux requins vivipares. Les œufs fécondés ou non, les petits juste éclos deviennent la nourriture de leurs grands frères et sœurs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul petit par oviducte. Alors l'oviducte se dilate en une sorte d'utérus musculeux et il accueille le développement des embryons. On retrouve aussi cette viviparité histotrophe chez des lézards par exemple.
Heureusement qu'il y a deux oviductes bien séparés à gauche et à droite, sinon ce serait un enfant unique à chaque fois.
Oui, d'autant qu'avec l'évolution, petit à petit, les deux oviductes vont devenir un utérus. Alors, vers la fin de la rétention dans les oviductes, les petits n'ont plus rien à manger. Et c'est là qu'ils commencent à grignoter la muqueuse de leur mère, et ça déclenche une expulsion des juvéniles qui sortent du corps de la mère, mais dans une naissance le plus souvent terrestre. Ça donne donc une viviparité.
Mais la question est donc, pourquoi cette viviparité s'est-elle développée chez les amphibiens, qui sont quand même des animaux bien primitifs?
Bah oui, puisque ce sont en fait les tout premiers tétrapodes, les premiers animaux arrivés sur la Terre chez les vertébrés. Mais on le voit, la viviparité est une stratégie qui va s'avérer obligatoire quand les conditions de l'environnement seront très dures. Pourquoi ? Des amphibiens comme la salamandre avaient utilisé cette viviparité histotrophe. Eh bien, les amphibiens, comme leur nom l'indique, nécessitent le plus souvent un milieu aqueux pour déposer et développer les embryons. Ils ont besoin de pondre dans l'eau liquide. Mais en s'installant en montagne, la salamandre va éviter des prédateurs qu'on ne retrouvera pas là. Mais elle se trouve par contre dans le froid le plus long jusqu'au printemps. Alors que ses congénères salamandres de plaine se reproduisent déjà en fin janvier, elle n'a que de la glace pour pondre. La plupart des torrents sont encore gelés. La salamandre manque cruellement d'eau pour se reproduire. Au fil du temps, la salamandre noire a donc utilisé des stratégies de rétention de ses petits dans ses oviductes. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'ils y ont trouvé de quoi se nourrir. Les ovules, les œufs de leurs petits et leurs petits frères. Du coup, la mère accouche de deux petits bien formés dès la fin du printemps et ils vont se dépêcher de grandir pour hiverner dès le début de l'automne.
Les salamandres sont surprenantes et elles font la jonction entre différents modes de reproduction.
Oui, on voit l'importance de ces cinq modes. Alors si l'oviparité, on en a déjà bien parlé, l'oviparité protégeait déjà des œufs, l'ovoviviparité va protéger encore le développement des embryons à l'intérieur du corps de la femelle ou du mâle, mais avec la viviparité, le développement est protégé jusqu'à son terme. Et les petits vont même être nourris par la mère. On aura donc des œufs avec beaucoup moins de vitellus. On a donc affaire à de la vraie viviparité, mais c'est une viviparité qui reste histotrophe, car la mère ne pourvoit pas à un échange de nutriments, par exemple à travers son sang. Elle fournit de quoi manger de manière indirecte les ovules, les œufs et les petits frères. Il faudra donc encore innover pour inventer un organe qui va être beaucoup plus spécialisé, comme le placenta, qui va permettre de faire que la femelle fasse passer de la nourriture pendant le développement de son embryon, et donc ça sera de la viviparité hémotrophe.
Une viviparité moderne, en quelque sorte.
Voilà. La viviparité correspond à la naissance de juvéniles qui ont accompli leur développement embryonnaire directement dans l'organisme maternel et qui sont pourvus d'organes particuliers d'absorption. Par exemple, une paroi folliculaire très vascularisée.
Du coup, on va quitter les amphibiens pour les mammifères qui vont faire une gestation vraie.
Eh bien non, détrompe-toi. Ça commence encore chez des grenouilles. Car pour nourrir les juvéniles avec un organe et accoucher de petits bien formés, les grenouilles vont innover. Ainsi, la femelle des rainettes, qu'on appelle les rainettes marsupiales, Gastrotheca ovifera par exemple, ou Gastrotheca marsupiata, en Amérique du Sud, eh bien, elle développe au moment de la reproduction, et sous l'influence d'une progestérone folliculaire, presque comme chez les mammifères, une poche incubatrice dorsale. Jusqu'ici, on a juste un repli de peau qui comporte des replis. Mais ces replis sont très richement vascularisés. On a donc des vaisseaux sanguins. Et sur chacun de ces vaisseaux sanguins, 4 à 6 têtards vont être déposés et appuyer leurs branchies. Leurs branchies sont très foliacées, elles sont découpées en forme de feuilles. Et en appuyant leurs branchies sur cette zone très vascularisée de leur mère, eh bien, ils vont profiter de véritables échanges hémotrophes, c'est-à-dire entre le sang de la femelle, l'organisme femelle, et le sang des petits. Le sang de la mère va apporter des nutriments. L'apport de ces nutriments maternels est diffusé dans le sang fœtal par un échange de type hémotrophe. On a donc une vraie viviparité. La structure des branchies externes des têtards et des replis de la poche incubatrice va constituer un ensemble tout à fait original dans le monde animal. Et même s'il ne s'agit pas encore d'un utérus, on a affaire à des gastrotheca qui sont de réels vivipares, puisque la femelle nourrit déjà les jeunes.
Donc des grenouilles sont vivipares et accouchent de petites grenouilles vivantes.
Voilà, ce sont des petites grenouilles vivantes. On trouve également le cas chez certains reptiles, comme le cinq européen, Calchides calchides par exemple, ou Calchides ocellatus. Ce sont des lézards, ou encore chez le syncidé vivipare, le pseudonomia, etc., dont l'embryon est pourvu d'une annexe vitelline close qui va se coller sur l'épithélium, sur l'intérieur de la peau de l'utérus. Ça forme une sorte de placenta très rudimentaire. La rétention des œufs fécondés est accompagnée d'une transformation hormonale, notamment il y a de la sécrétion de prolactine, et on va se mettre en place des structures organiques qui vont commencer à favoriser des échanges nutritifs entre l'embryon et la mère.
Il y a donc évolution des conditions pour héberger les petits à l'intérieur de la mère.
Oui, on n'est même plus au stade de l'hébergement, là on va carrément passer au nourrissage. Donc au niveau de l'œuf, d'abord, il va perdre une grande partie de sa réserve de vitellus, puisqu'il n'en a pas besoin, puisque son développement est nourri par la mère. On parle donc d'œufs alécites, ça veut dire des œufs sans vitellus. Chez tous les mammifères, ceux qu'on nomme les métathériens et les eutériens, l'embryogenèse va s'effectuer directement dans le corps maternel, et l'apport de nutriments est assuré par la circulation sanguine de la mère elle-même. L'œuf est de très petite taille, il est alécite, dépourvu de vitellus. Le développement se fait dans l'utérus, et les nutriments sont véhiculés grâce à un organe extrêmement sophistiqué, le placenta. Alors le placenta, c'est un ensemble très poreux au gaz et à la nourriture, mais qui va former une barrière entre la circulation sanguine de la mère et la circulation sanguine de l'embryon. Les nutriments passent à travers. Tout ne passe donc pas par le placenta, on parle même d'une barrière placentaire en ce qui concerne la circulation sanguine.
Et oui, c'est étonnant tout cela. N'empêche alors que cela conduit à la femelle à être enceinte pendant plusieurs mois.
Voilà, être enceinte, c'est donc de la gestation proprement dite. C'est-à-dire que le développement de l'embryon jusqu'au néonat va durer de quelques semaines à plusieurs mois selon l'espèce considérée. Bon, en général, plus on est gros, plus la durée de la gestation est longue. On passe par exemple à 19 jours chez la souris, avec la gestation qui va atteindre 31 jours chez le lapin, la lapine. Ça atteint 63 jours chez la chatte, mais 42 jours chez le putois d'Europe. Pourtant, il y a des grands singes qui vont montrer des durées de gestation plus brèves, en dépit de leur plus grande taille. Par exemple, la durée moyenne de gestation chez le gorille est de 8 mois, alors que chez la femme, la gestation est de 266 jours. Le record de gestation pour des animaux terrestres est chez les éléphants, qui ont la plus longue gestation parmi tous les mammifères terrestres. C'est une gestation qui peut durer 20 à 22 mois, selon qu'on est un éléphant d'Afrique ou d'Asie, et elle peut même atteindre 28 mois chez l'éléphant d'Asie.
C'est beaucoup.
Alors que la baleine bleue ne présente une gestation que de 12 mois.
Ah oui, c'est étonnant ça. La gestation dépend, je suppose, beaucoup du type de mammifère finalement et de son évolution.
Voilà, c'est l'évolution des mammifères qui va entraîner cette gestation. Chez les orques par exemple, ils ont une gestation très longue, avec 18 mois. C'est donc plus long que la baleine à bosse, dont la durée est en général de 12 mois. Au contraire, chez les marsupiaux, la durée de gestation est très brève parce que le petit va naître dans un état larvaire et il va poursuivre son développement non pas dans le corps de la mère, mais dans la poche marsupiale de la mère. Chez le kangourou roux, la gestation ne dure que 34 jours pour un animal qui fait 40 kg, alors que le chevreuil, qui ne pèse que 23 kg, va poursuivre une gestation de 290 jours, presque 10 fois plus.
Et chez chaque mère de ces espèces vivipares accouche alors d'un ou plusieurs bébés.
Oui. L'accouchement est un phénomène qui semble purement hormonal, sans aucune intervention du système nerveux. Il semble résulter d'une interaction particulière entre le fœtus et la mère. Bon, c'est généralement fait par l'intermédiaire des messagers hormonaux qui vont traverser le placenta. Toutefois, bien sûr, l'influence de la mère reste très forte sur le développement des jeunes, puisqu'elle est nourrie dans le corps maternel. Et ça va entraîner aussi de grands changements dans le corps maternel.
La constitution de l'utérus, je suppose.
Alors, l'utérus musculeux, oui, bien sûr, qui va produire, mais surtout parce qu'il va produire avec des tissus embryonnaires le fameux placenta. Le bouleversement hormonal va développer des mamelles, ça va permettre aussi de produire du lait. Chez beaucoup d'espèces vivipares, elles vont commencer à disposer d'éléments nutritifs après la naissance, non seulement les nourrir pendant, mais après, avec par exemple le lait chez les mammifères. Alors ça commence par du colostrum, une substance dorée qui contient à peu près les mêmes nutriments que le lait, mais c'est pas la même concentration. Et puis le lait va apparaître et la mère peut continuer à nourrir son jeune après sa naissance. La sécrétion est produite par des glandes spécialisées, les fameuses glandes galactophores qu'on retrouve dans les mamelles.
Et oui, cela remonte très loin. On avait vu comment des glandes mammaires s'étaient mises en place lors de l'apparition des mammifères.
Oui, on a déjà fait toute une émission sur ça, et on sait que la lactation date probablement du Trias, quelques millions d'années avant même les dinosaures. Il y avait déjà ça. La caséine, c'est une protéine du lait dont on a pu suivre l'évolution au cours de cette période, quasiment depuis les tout premiers morganucodons, les tout premiers mammifères. Des modifications de ces glandes exocrines, probablement, se sont déroulées en lien avec les risques de déshydratation du nouveau-né. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé à la naissance.
Mais du coup, les femelles se sont retrouvées à s'occuper des petits, déjà par la viviparité interne, mais ensuite à travers la lactation et le nourrissage maternel.
Et voilà, tout ça, ça a conduit petit à petit à ce que l'évolution des modes de reproduction s'est donc passée d'un soin paternel au début de l'évolution à un investissement presque totalement maternel, et tout ça au cours d'une longue évolution. Alors bien sûr, cette évolution a conduit à des interprétations très réactionnaires du genre la femme à la maison, puisque ça serait sa nature. Voilà. Ça serait dans sa nature que d'élever des jeunes. Mais rien ne dit que l'acquisition de la viviparité soit une malédiction féminine. La spécialisation de l'élevage par les femelles pourrait aussi bien entraîner leur domination sur les mâles. D'autant que la paternité est invisible. Les mâles ne savent plus s'ils sont les pères. Alors que la maternité, elle, c'est quelque chose de maintenant évident. Il y a donc des effluges idéologiques qui font de cette différence une inégalité, parce que l'élevage des jeunes n'est pas valorisé à sa juste peine.
Mais dès les premières espèces, on a vu que les mâles et les femelles ne copulaient pas dans la plus belle harmonie.
Oui, puisque la différence des sexes qui se met en place petit à petit, avec l'apparition de la sexualité, va aussi rencontrer le problème du conflit sexuel. Alors, on a le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la disparité des sexes qui est déjà marquée. Et plus il y a un dimorphisme important, plus par exemple le pan est différent de la panne ou le gorille de la femelle gorille, plus cela indique qu'il y a des difficultés à se rencontrer. Il faut donc se séduire. Chaque sexe doit apprendre à apaiser l'autre, à l'apprivoiser, avec ses différences et ses comportements. Et on retrouve ici le tir à la corde évolutif, où en fonction des possibilités organiques, chaque sexe va tirer à lui ce qu'il voit être bientôt le meilleur mode de reproduction.
Oui, mais ce mode de reproduction vivipare va encore accentuer le conflit sexuel. Avec ces organes d'intromission apparaissent aussi les pénétrations forcées, les viols et autres harcèlements.
Mais ça commence déjà avec l'oviparité, ça. On pourrait supposer que la proximité physique qui est imposée par la pénétration sexuelle va encourager davantage une monogamie temporaire. tandis qu'une fécondation externe provoquerait une augmentation des rivalités et une plus grande promiscuité sexuelle. Mais c'est exactement le contraire qui se passe, parce que le conflit vient du fait que le mâle cherche à assurer sa paternité, car au fur et à mesure de l'évolution, il a perdu les repères pour cette paternité, alors que la femelle, elle, évidemment, en faisant maintenant une maternité interne, est obligée de reconnaître sa propre maternité. Mmh. Attention, elle ne la connaissait pas non plus, sa maternité, quand on était au début de l'évolution, avec l'ovuliparité, par exemple. Mais la recherche du partenaire va donc en général être gouvernée par la femelle maintenant. La différence de taille entre les mâles et les femelles, et puis toutes les incompréhensions majeures dans le problème de la séduction, ça va accentuer le tir à la corde évolutif, au point de finir parfois sur des heurts et révéler que le conflit sexuel peut être très violent. Ça peut déboucher sur de la coercition, voire de la violence des mâles envers les femelles. Ainsi, chez les canards, qui disposent d'un pseudophallus de très bonne taille, les mâles vont harceler les cannes et ils peuvent les forcer à copuler. On retrouve cette violence aussi chez les otaries à fourrure, par exemple, où le grand mâle peut parfois se comporter comme un tyran sur son harem. Mais le plus souvent, chez la plupart des espèces, l'accouplement a intérêt à se passer bien, et donc il va résulter d'un accord tacite, puisque les gènes de l'un vont dépendre des gènes de l'autre. Là, on n'a plus affaire à une possibilité sans l'autre. Et ça va être obtenu à travers des efforts considérables. Ça va être toute une entreprise de grande séduction, avec des parades sexuelles, des apprivoisements. Et il faut rappeler combien toute la sexualité ne se confond pas avec la reproduction. Là, du coup, la sexualité va définir toute cette séduction, et ça s'avère très riche d'émotions. Ensuite seulement viendra la reproduction proprement dite.
Et oui, alors pour conclure tout cela, Thierry, on peut dire que c'est le bon côté de l'évolution des modes de reproduction.
C'est l'un des bons côtés, avec le plaisir. Les comportements de cour qui se sont développés d'une manière très sophistiquée pour courtiser et obtenir le comportement des femelles, par exemple le rouge-gorge gazouille, la rainette chante, le cerf brame, le dauphin siffle ses prétentions à la femelle. Et ça dure, et ça dure, et ça dure longtemps. La séduction des femelles occupe une très grande partie du temps des mâles. Et en général, ce sont les femelles qui décident ou non d'accorder leur faveur. Elles ont donc gagné ça. Elles ont gagné la sexualité, les femelles. En plus, elles vont gagner avec le clitoris le plaisir. Mais les comportements de cour et de harcèlement vont aussi se développer chez les mâles. Car l'intromission, elle oblige les mâles à s'approcher et donc à solliciter une entente plus complète pour la pénétration. Le revers, c'est que si les mâles peuvent expédier leurs semences au plus près des organes génitaux des femelles, ils ne peuvent pas forcément les contrôler, ces mêmes femelles.
Oui.
Et donc, comme ils ne peuvent pas non plus contrôler leur paternité, la fécondation discrète, dissimulée. Les mâles vont donc élaborer tout un ensemble de stratégies pour rester avec la femelle et multiplier les copulations avec elle ou avec d'autres, hein, selon les occasions. Donc on va avoir affaire à des stratégies de gardiennage de ces femelles qui vont aboutir à des couples monogames temporaires. Parce que là, les mâles vont être jaloux et garder les femelles auprès d'eux. La femelle va exercer son tir à la corde évolutif pour obtenir une participation du mâle à l'élevage. Elle va lui dire « Ok, je veux bien copuler avec toi, mais à condition que tu n'abandonnes pas la portée. Sinon, moi, je l'abandonne. »
Et oui.
C'est pour ça qu'on peut dire que la monogamie, c'est une stratégie de destruction assurée qui l'oblige. Mm-hmm. Mais évidemment, ça peut s'accorder aussi en réduisant le conflit sexuel. Mais d'une part, la sexualité n'est pas dévolue à la reproduction, et en valorisant ce soin aux jeunes dans les lignées matriarcales, les femelles de mammifères vont former des communautés libres, où le mâle est simplement un invité. C'est lorsque le mâle veut contrôler sa paternité par des coercitions que sa dominance installe un patriarcat. Mais ça, les femelles savent aussi très bien résister, je crois, non ?
There she is, that's what keeps me up at night. Oh gee whiz, that's why I can't eat a bite. Those flaming eyes, that flaming youth. Oh mister, oh sister, tell me the truth. Now ain't she sweet, see her coming down the street. I ask you confidentially, ain't she sweet? Ain't she nice? Look her over once or twice. I ask you confidentially, ain't she nice? Cast an eye in her direction. Oh me, oh my, ain't that perfection? I repeat, don't you think that's kind of neat? I ask you confidentially, ain't she sweet? Tell me where, have you seen one just like that? I declare, that sure is worth looking at. Oh boy, how sweet those lips must be. Oh, gaze on her, doggone her, answer me. Ain't she sweet? See her coming down the street. I ask you confidentially, ain't she sweet? Ain't she nice? Look her over once or twice. I ask you confidentially, ain't she nice? Just cast a little old eye in her direction. Oh, me, oh, my, 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 ain't that perfection? I repeat, don't you think that's kind of neat? I ask you confidentially, ain't she sweet? Just cast an eye, why, in her direction. Oh, me, oh, my, 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 that perfection. I repeat, don't you think that's kind of neat? I ask you confidentially, ain't she sweet?
Jane Austen interprétait Anne Sichui dans une version de 1927.
Ainsi, la mise en place au cours de l'évolution de cette viviparité a déterminé peu à peu une tension entre les sexes. C'est le conflit sexuel qui s'exprime, mais toujours dans la recherche d'une connivence, d'une réconciliation. Parce qu'enfin, il faut bien coopérer pour finir. Et ce qui compte toujours dans cette nature libertaire, c'est d'obtenir le consentement de l'autre. Pour cela, les mâles font des efforts considérables pour courtiser les femelles, et les femelles s'assurent de la meilleure coopération possible pour l'élevage des juvéniles. Tout pourrait donc très bien se passer et équilibrer le tir à la corde évolutif qui a dévolu la reproduction la plus protégée possible, la plus adaptée possible à notre monde, avec la viviparité des femelles. Et tous les champs de la nature rappellent combien se rencontrer reste encore le début d'une aventure libertaire ensemble.
Tout à fait. Alors auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter en téléphonant au studio ou sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr. Science libre au singulier. Vous pouvez écouter, réécouter cette émission en la téléchargeant sur le site de Trou Noir. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, pour décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui l'accompagnent. Alors, se finit ainsi cette émission de Science en Liberté, animé par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahidi. Et nous allons conclure sur Almarita de du groupe La Rue qui est à nous.
Elles sont peut-être les folles de Nevers ou de Séville, des bracelets qui farandolent, des boucles d'oreilles qui sourient, à une robe de gitane, une gitane que l'on rencontre sur une scène à macadam, une histoire que l'on raconte. La musique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante les gitans, et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Elle chante pour tous les printemps, temps de vie et ses gros temps, mais elle ne peut y rester. L'âme gitane ne fait que passer, elle se suicide 100 fois par jour pour dire on ne brade pas l'Algérie ou bien l'amour, ces choses-là ne repoussent pas. La musique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Elles portent des marques du voyage et savent très bien nous y faire croire, rien qu'à les regarder danser, cherche pas à comprendre, t'as qu'à y aller. Ni femme de marin, ni putain, je sais qu'elles repartiront. Des joies de gens dans une main et une valise pleine de chansons. Où la musique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante pour les gitans. Et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans. Et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Il y en a qui travaillent comme des fous pour se payer des clous à clouer sur leur feuille de vie. Mais la mort est sans bagage, moi de tout cela je ne veux rien. Les poches vides et le cœur plein d'amour qu'une gitane m'a laissé. La musique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante pour les gitans. Et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans. Et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans. Et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans. Et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante.